Si thando kunibingelela bantwana bakaNkuluNkulu ezindaweni ngezindawo lapho enithamele khona lenkonzo kulesi sikhathi.
Nous voulons vous souhaiter la bienvenue et nous voulons aussi être tellement reconnaissants pour la pluie que le Seigneur nous accorde. Aujourd'hui, il pleut. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas plu et nous voulons être reconnaissants. Les plantes aspiraient, soupiraient après cette pluie. Et alors que le 1er septembre est ici en Afrique du Sud, le jour où nous célébrons le printemps, alors le Seigneur nous accorde cette pluie. Et cela me rappelle ce chant qui dit « Oh, que toute création, le ciel, les étoiles, les animaux, toutes les plantes, chaque créature puisse louer et célébrer le nom de notre Dieu. » Que les cieux, tout, éclatent en louanges et adorent le nom du Créateur. Non pas que la créature prenne ou pense être supérieure au Créateur, mais que toutes ces choses, toute la création loue et célèbre le nom de Dieu. Il y a ce danger que, alors que tu loues, mais en fait tu te loues toi-même, parce que tu penses que tu peux te suffire à toi-même, que tu es quelqu'un, et alors tu prends le dessus sur Dieu. Et nous louons, nous célébrons, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous ici à la mission. Chaque jour, nous voyons et nous pouvons être témoins de ce que Dieu fait, des choses incroyables que le Seigneur nous accorde. Et nous ne pouvons que le louer et le célébrer et le remercier pour cela. Nous voulons le remercier pour ce qu'il nous accorde, mais aussi pour sa présence, comment il se manifeste par sa présence, aussi par sa puissance. Et nous ne le disons pas de manière hypocrite, nous sommes témoins de ce que le Seigneur fait et nous voulons donc le remercier et le louer pour cela. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour sa direction, pour la manière dont il nous guide, surtout dans ces temps particuliers dans lesquels nous vivons, les choses auxquelles nous devons faire face. Et nous ne disons pas par nous-mêmes pour nous vanter, mais c'est aussi quelque chose que des témoins extérieurs nous ont fait part et ont témoigné de ce qu'ils pouvaient voir, comment le Seigneur nous dirige et par son esprit nous donne de prendre des bonnes décisions. Peut-être avez-vous entendu à la radio que cette semaine, nous allons célébrer, nous allons fêter le 25e anniversaire de Radio Kwesi. Et pour rappel, cette radio a été fondée, a été commencée suite à la vision et la vision de répandre l'évangile qu'a eu le directeur de la mission, oncle Erlo. Et nous voulons remercier le Seigneur pour les hommes de Dieu qui nous accordent et pour les hommes de Dieu qui ont une vision. Où Dieu peut accorder à ces hommes la vision de besoins futurs. Et alors des décisions sont prises bien en avance, bien avant qu'un quelque signe. Mais par ce que Dieu inspire, on répond ainsi aux besoins des gens et ainsi, un certain nombre de choses peuvent être mises en place pour répondre à l'attente et aux besoins des personnes. Donc je ne veux pas tout raconter, tout dire, on pourrait en dire beaucoup. Mais déjà, je voudrais dire que dimanche prochain, nous aurons un temps où nous pourrons raconter comment Dieu a utilisé la radio pour transformer les vies. Donc nous voulons faire une présentation le dimanche prochain, donc un diaporama. Donc pour ceux qui peuvent se connecter à live stream, alors acheter de la donnée pour que ce ne soit pas seulement un son, que vous ne regardiez ou n'entendiez pas cette présentation seulement par le son, mais que vous puissiez aussi nous joindre à nous pour voir les photos et la présentation qui sera faite à l'occasion de ces 25 ans de Radio Coésie. Donc, la date anniversaire est le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est la date à laquelle la radio a commencé. Mais nous aurons une célébration, une fête, donc le dimanche. Donc, ce sera, virtuel. Normalement, nous aurions dû être ensemble, être réunis, mais en raison des circonstances, alors vous pouvez participer de manière virtuelle en suivant par live stream ou par la radio. D'un côté, nous sommes tristes de ne pas pouvoir nous rassembler en raison des circonstances de Covid-19, que notre rassemblement n'est pas autorisé. Je suis sûr que l'auditorium aurait été rempli, mais nous voulons prendre les circonstances comme venant de la main de Dieu et nous voulons nous soumettre et accepter que c'est lui qui a décidé et qui a permis, et nous ne pouvons pas comparer la grâce du Seigneur à quelque chose d'autre. Nous ne pouvons pas comparer à quelque quoi que ce soit d'autre son amour pour nous. Que depuis 25 ans, Dieu nous a portés, nous a pourvus, et il a utilisé, qu'il a aussi utilisé la radio pour proclamer l'Évangile. Donc, si Dieu nous épargne, nous permet de vivre, alors nous voulons remercier le Seigneur et le louer.
Et
avant de continuer, nous voulons encore prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta majesté. Tout ce que nous voyons, tout ce dont nous sommes témoins, n'est possible que par ta puissance. Seigneur, nous comprenons et nous réalisons que nous ne sommes pas en lutte contre la chair et le sang. Mais nous savons qu'il y a des puissances, des puissances de ténèbres qui s'opposent et qui luttent contre cette lumière, la lumière que tu veux, toi, accorder à tous les hommes. Seigneur, nous savons et nous comprenons, nous réalisons qu'un certain nombre de personnes sont à l'œuvre pour détruire ton œuvre, pour, dans les coulisses, s'opposer à ce que tu fais. Mais Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses faire dérailler leurs plans. Que tu puisses te lever et prendre la défense de ton œuvre. C'est pourquoi, Seigneur, aussi, sois avec nous maintenant dans cette réunion, que nous puissions entendre ta voix et que tu puisses repousser, chasser tout ce qui vient du diable. Qu'aucun ne s'endorme, ne somnole et ainsi passe à côté de la bénédiction que tu veux accorder. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions comprendre, entendre et comprendre ce que tu veux nous dire et que ainsi ton nom soit glorifié. Et tout cela, nous demandons dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Ai, sifuna ubonga kakhulu uMbomvu bamgubane ngokukhuluma kwakhe.
On le remercie Baba Gubane pour l'introduction. Alors moi, en tant que fermier, nous avons planté des choses les dernières semaines, les derniers mois. Alors nous pouvons que remercier le Seigneur pour la pluie qu'il nous accorde aujourd'hui. C'est vraiment une grâce du Seigneur, une grâce que le Seigneur nous démontre. Parce qu'imaginez, si le Seigneur fermait les cieux, alors imaginez la sécheresse, mais imaginez aussi spirituellement, si le Seigneur fermait les cieux, alors ce serait un chaos. Alors, comme il a été dit la semaine dernière par le prédicateur, j'espère que ce que je vais aborder ce matin fera une différence dans votre vie. Il y a des fois et des choses que le Seigneur met à cœur de dire, et pourtant tu aurais envie de te taire plutôt. Alors, j'aimerais dire que dans de tels cas, quand le Seigneur te met quelque chose à cœur de dire, ne imaginez pas que c'est facile. Peut-être on peut penser que c'est facile de se tenir devant et de parler. Alors, vous, priez pour ceux qui prêchent. Prêcher, annoncer l'Évangile n'est pas une chose facile. Mais notre désir est de faire la volonté de Dieu. Hier soir, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais dire, j'ai eu le désir de parler à nouveau de Adam et Ève. Mais alors que j'ai ouvert ma Bible, cela m'a orienté vers un tout autre sujet. J'aurais aimé parler de Adam et Ève, comment Dieu les rencontrait, les visitait. Comment il était dit que c'était le soir, à la brise du soir, Dieu marchait et on pouvait l'entendre. C'était comme la brise, comme un vent qui secouait, qui faisait bouger les feuilles, et alors l'homme savait Dieu est là. Cela m'a rappelé comment le réveil a commencé en 66, comment nos aînés nous ont raconté que c'était comme un vent. Et je me suis dit, est-ce que c'était ça que Adam et Ève expérimentaient, ce vent à travers les feuilles? Et j'ai aussi pensé à cette parole de la Bible où il dit que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Alors, mes amis, qu'il en soit ainsi dans notre vie, que ce ne soit pas unique, mais que ce soit comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu passe avec son vent, passe avec son feu, et alors nous savons, Dieu me parle, Dieu est là. Le deuxième point que j'aurais voulu aborder est de voir comment le diable a utilisé une créature rusée. Je me rappelle, une fois, ma mère m'a dit, « Dietmar, ma grand-mère, comment mon grand-père a dit une fois, « Prends garde à cet homme d'affaires, parce que c'est un homme rusé. » Et je me suis dit, quel drame quand c'est le cas dans notre vie. Alors, soyons satisfaits avec le fait d'être simple. Parce que Nous voyons à travers l'histoire et jusqu'à ce jour comment le diable utilise les soi-disant gens intelligents, les gens rusés, pleins d'intelligence. Et si je dis cela, c'est parce qu'il y a ces derniers jours, j'ai eu un SMS. Si je dis cela, c'est parce que le diable utilise ces personnes. Le diable utilise très souvent des gens très rusés, intelligents. Et quand j'ai reçu ce SMS, j'ai dit « Seigneur, merci, merci. Je te remercie que les gens pensent cela de moi. » Alors la personne m'a écrit « Dietmar, es-tu fou ?» Alors imaginez-vous, « Are you mad ? Es-tu ? Est-ce que tu es fou ou est-ce que tu es juste stupide ?» Bête. Alors voyez comment les gens parlent de moi et que ça ne me dérange pas. Cela même me réjouit que les gens pensent que je sois stupide ou bête ou fou. Alors cette personne continue à m'écrire « Pourquoi tu te préoccupes tant des autres ?» Je ne comprends pas pourquoi il écrit une telle chose, parce que moi ce qui me préoccupe, c'est même ma relation avec le Seigneur et la position de ma vie. Cette personne continue à écrire. Est-ce que Antophos a soufflé, murmuré dans ton oreille? Est-ce que tu confesses? Est-ce que tu parles de ce qu'il t'a été dit dans l'oreille? Alors, je ne sais pas pourquoi cette personne écrit telle chose. Elle n'était même pas présente. Alors, aidez-moi. Quand ils disent que je suis stupide. Si cette personne me dit, ah, Antophos, souffle dans ton oreille. Mais alors, est-ce qu'ils étaient là quand c'est arrivé? Cette personne, le SMS n'est même pas signé. C'est un SMS anonyme. Alors je dis, est-ce que cette personne, si elle écoute, étais-tu là quand tu affirmes de telles choses? Cela démontre la haine que certaines personnes ont envers d'autres et la haine qu'ils ont envers certaines personnes de tenir de tels propos. Alors, est-ce que tu te laisses retenir par ce que les autres disent? Est-ce que tu es influencé par ce que les autres, ce que les autres pensent de toi? Et alors, ce que je vais dire ce matin, ce que je veux partager ce matin, personne ne m'a susurré quoi que ce soit dans l'oreille. Je ne peux dire que c'est la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te parle. Et peut-être Dieu te parle. Et alors je serais le plus fou, effectivement, le plus stupide, si je ne laissais pas Dieu me parler et me murmurer. Les hommes et les femmes passent, mais un jour je devrais me tenir devant Dieu et répondre de ce que je dis. Alors, peut-être parce que je suis effectivement stupide, peut-être je suis bête, parce que certains affirment que je suis fou. Alors, laissez-moi lire ce papier, ce document. Quelqu'un m'a donné un document. Cette personne ne savait même pas que j'allais prêcher ce matin. Donc c'est quelque chose en afrikaans. Donc c'est écrit en afrikaans. Donc c'est un article qui dit Ardo Stegen affirme et confirme les soupçons de malversation. Alors vous comprenez pourquoi je suis comme cela. Comment cette personne, donc ça c'est l'article, hein, le nom est dans l'article, est un enfant de la mission, est un proche de Pasteur Stegen, oncle Erlo, et de cette manière, en sortant de tels articles, il attaque oncle Erlo. Vous comprenez pourquoi cela me met dans cet état. Et donc, ce journal dit, voilà, que cette personne confirme, ou oui, confirme les malversations. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce. Rappelle-toi, ne mets jamais le doigt dans l'œil de Dieu. Je m'en rappelle, cela me rappelle quand le Seigneur était à l'œuvre il y a des années à Kranskop. Je m'en rappelle, je ne peux pas l'oublier. Et je ne peux jamais me oublier. Même l'endroit même où nous étions, j'étais à côté de oncle Erlo, et je ne pourrais pas l'oublier. Et il a été dit, ne mets pas le doigt dans l'œil de Dieu. Quel que soit ce que tu dises, quel que soit ce que tu fais, attention de ne pas mettre le doigt dans l'œil de Dieu. Alors imaginez, peut-être vous comprenez pourquoi les gens m'accusent d'être fou, d'être stupide. Cela ne fait rien, ce que les gens pensent de moi. Cela ne me plaît pas d'être comme ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a transformé, parce que quand j'étais petit, j'étais timide, je ne voulais pas parler en public. Et aujourd'hui, je prêche, mais je veux être obéissant au Seigneur. Et quelque chose que j'ai à cœur de partager aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est quelque chose que nous avons déjà entendu, dont nous avons déjà parlé, mais je voudrais réaborder ce point. Dès le début du réveil, souvenez-vous que Cette œuvre de réveil et Oncle Herlo ont toujours été attaqués. Mais à quoi cela servit-il?
Today I'd like to read out of Revelations chapter 2.
Et à quoi cela a servi à ces gens, toutes ces attaques? Alors pour le passage, nous voulons, avant de lire, nous voulons prier. Seigneur, tu as entendu tout ce qui a été dit. Tu ne nous as pas promis une vie facile. Et même les difficultés viennent parfois d'endroits, de lieux que tu ne auxquels on ne s'attend pas. Mais Seigneur, fais grâce, accorde-nous ta compassion, donne-nous la grâce de t'entendre toi ce matin, afin que tu puisses œuvrer parmi nous, que nous puissions obtenir la vie de ta part, et que cette vie, nous puissions la transmettre aux autres, par ta grâce. Amen. Donc, nous voulons lire un passage de Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa passe si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2, 5 à 7. C'est une parole très sérieuse que nous avons lue ce matin. Et j'aimerais que nous puissions considérer sous cet angle le livre de l'Apocalypse. Est composé, découpé, on pourrait dire, en trois parties. Vous avez le passé dans le chapitre 1er, chapitre 2 et 3, le présent, et après, chapitre 4, ce qui arrivera dans le futur. Et nous voyons que la suite de l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, compose la majorité de l'Apocalypse. Et cela nous démontre l'importance de cela. Et il y a tellement de choses qui sont dites, qui sont répandues en rapport avec les prophéties. Mais je ne veux pas me préoccuper du futur pour l'instant. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que nous vivions dans le présent. Alors, écoutons ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et chapitre 2, de 1 à 3. On parle du temps des disciples. Donc ces trois premiers versets nous rappellent comment les disciples ont œuvré pour l'œuvre de ce Seigneur. Ils ont été patients dans les épreuves. Ils ont servi le Seigneur avec endurance et persévérance. Imaginez-vous, rappelez-vous ce qu'ils ont dû traverser. Et vous savez que les apôtres, beaucoup des apôtres, ont perdu leur vie à cause de la cause de Christ, ou à cause de l'Évangile. Donc, c'est une chose de essayer de discerner le futur. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour le présent, pour maintenant? Quand nous regardons au passé, serons-nous honteux? Peut-être ça peut arriver que quand tu considères ta vie passée, alors tu as honte de certaines choses. Mais oublions le passé, reconsidérons, évaluons le présent. Voyons donc chapitre 2, Jésus ou le Seigneur parle des apôtres. Mais au verset 5, il y a un changement. Tout d'un coup, alors que Dieu a repris au fur et à mesure les disciples, petit à petit, et peut-être pas si lentement, parfois même rapidement, les choses changent. Quand la génération suivante, quand les générations suivantes arrivent, alors il y a un refroidissement. Il y a un refroidissement par rapport aux commandements et par rapport aux paroles de Dieu. Et la Bible nous avertit. Il est dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est choquant de savoir, de le lire. Et nous voyons que la première chose qui a diminué, c'est l'amour pour le Seigneur. Dieu était à l'œuvre par les apôtres, la vie des gens était transformée. Considérez l'histoire de l'Église primitive, comment l'Évangile a été répandu. Mais une fois que les apôtres ont petit à petit disparu, qu'est-ce qu'il en a été de génération suivante? Ceux qui étaient chers pour les disciples, ceux qui les unissaient, étaient ensuite quelque chose qui, dans les générations suivantes, a été méprisé. Et alors, mes amis, j'aimerais que nous comprenions. Et j'aimerais que nous réalisions que cette parole ne s'adresse pas seulement à cette époque de l'Église primitive. Et j'aimerais que nous qui sommes dans cette œuvre de réveil, nous puissions prendre ces paroles à cœur et les appliquer à nous aujourd'hui. Alors mon ami, considère ta vie. Où est-ce que tu te tiens dans ta vie spirituelle? Comment est ta vie? Par exemple, quand le Seigneur reprend les anciens, les aînés, qu'est-ce qui se passe alors dans ta vie? Est-ce que tu continues d'avoir le feu dans ta vie Ou est-ce que petit à petit ce feu se refroidit? C'est pourquoi Dieu dit dans cette parole: et laissez-moi, comme nous l'avons lu, où est ton amour? Où est ta passion ou ton désir de servir le Seigneur? Et rappelle-toi comment tu es venu, comment tu as commencé. En ces temps de coronavirus, peut-être tu es seul à ta maison avec tes enfants. Alors, considère comment est ton amour. Considère comment est l'amour pour le Seigneur avant le coronavirus et comment est ton amour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont refroidi cet amour? Alors, si nous relisons ce verset 4 qui dit « J'ai cependant quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Au verset 4, « J'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Alors, si vous considérez la signification de cette expression d'abandonner le premier amour, cela veut dire la chose suivante. Donc la chose suivante, ça veut dire si vous regardez le mot, c'est un mot qui veut dire de dire au revoir, de se séparer de quelque chose, de... Alors écoutez, littéralement, c'est le même mot qui est utilisé pour lorsqu'un mari divorce d'avec sa femme. Donc, lorsque j'abandonne la mort, c'est comme un divorce. Alors, c'est un divorce d'avec quelque chose que j'avais, que je chérissais, et à un moment donné, je m'en sépare. Donc quand tu perds cet amour, cette touche, ce feu qui brûlait auparavant dans ton cœur, lorsque tu perds cela, c'est comme un divorce. Tu te sépares de quelque chose qui était cher à ton cœur et tu t'en sépares. Et alors tu deviens adultère. Et peut-être tu prends un autre mari, une autre femme qui ne t'appartient pas. Christ qui était en toi, qui brûlait en toi. Et alors tu as divorcé d'avec lui. Et peut-être tu vas dire, mais comment? Non, je prie, je prêche peut-être l'amour de Christ. Mais le Seigneur l'a dit lui-même. Alors, considère ta vie. Le Seigneur a dit lui-même que certains viendront en disant « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, etc. » Mais le Seigneur dira « Je ne vous connais pas. » Alors, fais, toi, tes devoirs et considère ta vie. Dieu avait ordonné à commencer quelque chose, mais toi, tu fais autre chose. Rappelle-toi comment tu es venu à l'évangile de Seigneur, comment un feu a commencé. Mais peut-être se pose la question, as-tu déjà eu ce feu? Mais rappelle-toi cet amour. Peut-être, est-ce que cet amour coûter quelque chose. Et peut-être c'est pour ça que tu l'abandonnes si facilement, parce que cet amour ne t'a rien coûté. Mais est-ce que peut-être la question se pose? L'as-tu déjà eu, cet amour? Peut-être tu n'as pas connu cela. Peut-être tu ne l'as même pas connu dans ta vie, cet amour. Peut-être tu l'as appris de tes parents. Mais si tu as connu ce premier amour, cet amour, si tu as connu ce que cela veut dire, alors tu comprends. Et peut-être tu vas comprendre pourquoi tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Israël a été choisi par Dieu. Dieu était leur lot. Et ils étaient la propriété de Dieu. Et Dieu leur a alors souvenu, leur a rappelé comment Dieu avait agi dans leur vie, comment Dieu les a choisis. Jérémie 2, « Va à Jérusalem, crie à ses oreilles, voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert. » Pourquoi est-ce que Dieu doit le rappeler à Israël? Peut-être est-ce comme toi, tu penses que tu aimes le Seigneur, que tu suis le Seigneur, mais peut-être est-ce que le Seigneur ne dit pas, « Va voir un tel et crie à ses oreilles, je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, combien tu m'aimais lorsque tu me suivais à travers le désert. » Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu tournes le dos à ce que le Seigneur t'a accordé, à ce que le Seigneur t'a donné et jusqu'où il t'a mené. Alors Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Est-ce que tu comprends? Israël a été appelé à être sainte, à être mis à part. Et voilà le premier amour, d'être mis à part pour Dieu. Et c'est, la Bible nous dit que c'est un appel élevé. Mais peut-être que cela est devenu trop lourd pour toi. Peut-être était-ce trop lourd de devoir te couper d'avec certains membres de ta famille. Et le fardeau était trop lourd. Peut-être étais-tu amené à faire des choix. Et à cause de cette flamme, de ce feu qui brûlait en toi, tu as été amené à faire des choix. Et qu'en est-il aujourd'hui? Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te tiens aujourd'hui? Tout d'un coup, nous l'avons expérimenté parmi nous. Nous l'avons expérimenté même dans notre propre famille. Tout d'un coup, la personne s'en va. Et qu'est-ce qu'on voit? Le monde est rentré. Si tu te sépares et tu perds cette première amour, soi-disant pour quelque chose de mieux, pourquoi est-ce qu'au contraire, tu repars en arrière. Pourquoi est-ce que de telles personnes ont un standard plus bas que ce qu'ils ont connu? Alors, il s'excuse auprès de Gladson qui a un peu du mal à traduire. Donc, souvenez-vous d'Adam et Ève et comment ils sont tombés dans le péché. Même dans leur chute, Dieu les a encore vêtus. Dieu, même quand Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, Dieu a encore eu la pitié, on pourrait dire, de les vêtir. Il est dit qu'il leur fit des manteaux ou des vêtements. Alors je pose la question, toi qui dis « Ah, j'ai quitté la mission, je ne veux plus entendre de la mission parce que ci, parce que là. » Alors je te pose la question, où es-tu spirituellement? Pourquoi est-ce que tu retournes en arrière? Et je te pose à toi la question, qui est ici à la mission. Est-ce que ta vie donne gloire au Seigneur? Ou est-ce que, au contraire, le Seigneur a honte de la manière dont tu vis? Certains disent « Ah, la mission est ici, la mission est là. » Mais à peine la femme est partie, qu'elle se met à porter des pantalons et en exposant, en mettant en lumière les formes au point où tu as honte même de regarder. Le Seigneur nous a dit, nous devons nous respecter les uns les autres, et la parole de Dieu nous dit, tu ne dois pas exposer ta nudité. Et c'est une des choses aussi que le Seigneur nous a enseigné. Par exemple, que ce n'est pas une bonne chose que les boucles d'oreilles soient portées. Il y a quelques jours, ma fille aînée est venue et cela m'a réjoui. Et elle m'a dit, Baba Doubé, viens. Et il nous enseigne, et il nous enseigne aussi comment respecter les personnes âgées. Et la manière de s'adresser aux personnes âgées. Et elle continue à me dire, donc il y a une manière de s'adresser aux aînés. Et j'ai dit à ma fille alors, prends à cœur ces enseignements. Applique-les dans ta vie. C'est merveilleux si on peut vivre ensemble de cette manière. Et je ne comprends pas les gens qui disent « Ah, je n'aime pas cette nation, je n'aime pas cette culture, je n'aime pas ceci ou cela, cette race. » Je comprends pourquoi de telles personnes sont parties. Le Seigneur lui-même nous a enseigné et nous a apporté, nous a amené les uns auprès des autres et nous apprenons des uns des autres. Et laissez-moi mentionner un certain nombre de choses. Peut-être que cela vous dérange, mais laissez-moi mentionner certaines choses, parce qu'il faut que les yeux s'ouvrent. Et vous voyez alors comment un certain nombre de personnes s'habillent de nouveau comme elles ont laissé il y a des années en arrière. Et alors, laissez-moi dire les choses telles qu'elles sont, où on voit désormais des jeunes femmes ou des femmes porter des t-shirts sans manches ou des... comment on dit, et alors on voit les seins, et c'est ça qu'on veut, et on retourne en arrière à s'habiller de la manière qu'on a laissé en arrière il y a des années. Quand Adam et Ève sont tombés, alors Dieu les a vêtus, mais nous, quand nous abandonnons le Seigneur, alors nous nous mettons à nu. C'est tout l'inverse. Et alors, tu retournes en arrière à porter des pantalons moulants pour exposer tes courbes. Dis-moi, c'est ça le premier amour? Alors, je t'appelle et je te dis, souviens-toi de ton amour, ton premier amour, cet amour qui nous réunit, qui nous attire les uns aux autres, qui nous donne la force. Et c'est ce que Satan a aussi vu, cet amour parmi les disciples. Et alors il a tout fait pour apporter un autre amour. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler d'amour, on parle tant d'amour. Nous devons même tellement de chants, de chansons qui sont chantées en rapport avec cet amour. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus puissant, plus fort que quoi que ce soit d'autre. C'est l'amour que Christ a démontré. Et rappelle-toi comment tu étais, comment tu aimais, avec quel amour tu aimais les autres. Mais aujourd'hui, on a un amour contrefait. Vous savez comment on discerne les choses contrefaites ? Parce que cet amour, l'amour de Dieu est devenu le sujet. Oui, bien sûr que l'amour de Dieu est, mais on ne parle pas du même amour. Parce que l'amour de Dieu est saint. L'amour de Dieu provoque la séparation entre le bien et le mal. L'amour de Dieu change les situations. Cela apporte quelque chose de nouveau, cela renouvelle les choses. Et ainsi, on ne peut pas rater cet amour, parce que quand tu expérimentes cet amour, tu le ressens. L'amour de Dieu provoque que tu exposes les choses dans ta vie. Et alors, le faux amour, par contre, lui, te fait te préoccuper des autres et tu en oublies ta propre condition. Alors tu commences à te préoccuper plus des autres que de toi. Quand tu divorces avec cet amour, alors c'est à cause du péché. Le péché provoque que tu te divorces d'avec cet amour. on ne peut pas séparer cet amour de la prédication contre le péché, parce que c'est le péché qui amène cette séparation. Si tu arrêtes de prêcher contre le péché, alors tu laisses le péché entrer. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas, tu fais pas attention, alors cela entre même dans ta propre vie. 100% d'amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Et vous savez comment on voyait quand une personne a abandonné son premier amour? Alors on remarque un changement dans son langage. Même un prédicateur, on voit sa prédication change. Oh, on va commencer à dire, ah, vous êtes légaliste, c'est la loi, faut faire, faut pas faire. Mais souviens-toi comment ton cœur, quand ton cœur était enflammé pour le Seigneur, et peut-être qu'il en est ainsi sur la route, où avant, si tu as cet amour, ça ne dérange pas de respecter les panneaux. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas respecter les panneaux, parce que de toute façon, tu veux n'en faire qu'à ta tête. Et rappelle-toi, alors j'aimerais te demander, où est ce premier amour? Où est ce feu pour le Seigneur dans ta vie? Alors je voudrais répéter, c'est le péché, c'est la tiédeur qui fait sortir ou qui fait séparer de cet amour. Il n'y a rien d'autre. Tu perds ce premier amour à cause du péché et de la tiédeur. Rappelle-toi, tu étais capable de tout au début quand tu avais ce premier amour. Rien ne te faisait peur. Et qu'en est-il aujourd'hui? Pour toi, c'est un fardeau. Cet amour, ce premier amour est comme un fardeau pour toi. Souviens-toi comment tu priais, comment tu allais tout seul, tu passais du temps avec Dieu, tu te adressais à lui et lui s'adressait à toi parce qu'il y avait quelque chose dans ton cœur pour lui. Tu aspirais à qu'il te donne quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que c'est encore une réalité dans ta vie? Peut-être, tu te souviens, dans le passé, tu avais des moments où tu disais « Non, il faut que je prenne ce temps calme pour passer du temps avec le Seigneur. » Mais aujourd'hui, non, tu es trop occupé. Ou tu as des excuses. Et tu as des excuses pour expliquer pourquoi tu ne pries plus comme cela. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous a enseigné. Comment nous prions pour toute chose, et qu'en est-il aujourd'hui? Ces derniers jours, j'ai entendu à nouveau l'histoire de John Wesley. Il y avait à l'époque un professeur dans une certaine université, professeur Orr, et il emmenait ses étudiants en excursion. Et ce professeur, donc, emmenait ses étudiants, et il aimait les emmener aussi dans des endroits où avaient vécu des hommes de Dieu. Et alors ce professeur, un jour, a emmené ses étudiants dans la maison de John Wesley. Et alors qu'ils sont rentrés dans la maison où avait vécu John Wesley, ce professeur leur a raconté la vie de John Wesley. Alors, quand nous parlons de John Wesley, cela ne dérange pas. Par contre, si nous parlons de Unklerlo, alors on nous accuse de faire le culte de la personnalité, etc. Et cela me rappelle comment il était similaire à ce que John Wesley a vécu, et comment moi-même je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, où Unklerlo a pu parfois passer du temps en prière jusqu'à ce qu'il ait une réponse de la part de Dieu. Et Unklerlo allait prier, et encore aujourd'hui, il priait jusqu'à ce que le Seigneur accorde une réponse. Et aujourd'hui, si nous mentionnons son nom, c'est comme si nous péchions. Et si tu es ainsi, c'est parce que tu le haïs. Et tu haïs le fait que nous mentionnons son nom. Mais nous voulons rappeler que nous aimons Unklerlo, et si nous parlons ainsi, c'est pour cette raison. Alors, le professeur Orr a rappelé à ses étudiants la vie de John Wesley. Comment le feu, comment Dieu est descendu à travers dans la vie de John Wesley, et comment Dieu agit par John Wesley. Et alors, professeur Orr a continué la visite de la maison et les a emmenés dans la chambre à coucher où dormait John Wesley. Et en faisant le tour du lit, ils ont remarqué sur le sol, il y avait deux traces par terre. Et souvenez-vous, John Wesley est un homme enflammé pour le Seigneur. Et donc au pied du lit, il y avait deux traces dans le sol. Et alors, en attendant que chaque étudiant arrive, alors le professeur Orr a rappelé à tous les étudiants comment ces deux traces dans le sol étaient les traces des genoux de John Wesley, comment il passait du temps en prière et il parlait à Dieu. Mais peut-être toi aujourd'hui, 1, 2, 3, ça y est, c'est fini, la prière est faite. Mais Dieu est éloigné, semble si éloigné pour toi. Il n'y a pas de lutte avec Dieu comme ces hommes de Dieu, comme John Wesley, comme d'autres, où il priait tellement qu'il y avait des traces dans le sol de la chambre. Il luttait avec Dieu. Mais toi, tu pries Mais tu ne pries que pour toi et tes propres problèmes. Mais ces hommes priaient et étaient capables par leur prière de remuer les cieux. Et donc, professeur Orr a continué la visite et ils sont allés dans, finalement, sortis. Et quand ils sont montés dans le bus, le professeur a leur compté et il a remarqué, tiens, il y a un étudiant qui manque. Alors le professeur s'est posé la question, il s'est dit, tiens, où est-ce que cet étudiant a disparu? Alors professeur Orr est retourné dans la maison et il a refait le tour de la maison et en montant dans la chambre, et alors qu'il est rentré dans la chambre, il a vu une tête qui dépassait du lit et il a remarqué, alors jeunes gens, écoutez ce que je dis, écoutez et comprenez. Et alors que le professeur a fait le tour du lit, il a entendu cet étudiant qui était en train de prier à la place où se tenait John Wesley d'habitude. Et ce jeune homme disait, Seigneur, refais-le, fais-le à nouveau. Et ce professeur a mis la main sur l'épaule du jeune, il lui a dit, mon garçon, nous devons y aller. Et en se levant, cet étudiant qui s'est levé était Billy Graham. Et il a rejoint alors les autres dans le bus. Est-ce que tu comprends? Là était un homme dont l'amour de Dieu brûlait. Il ne s'est pas préoccupé de ce que les autres pensent de lui. Et il avait cette aspiration en disant, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas refaire à nouveau ce que tu as fait dans les temps où John Wesley vécut? Et toi, qu'en est-il de ton cœur? Ton cœur est froid et dur comme une pierre. Alors, mon ami, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui te mène dans la vie? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est tes loisirs? Ou est-ce que c'est cet amour pour le Seigneur qui dirige ta vie? Est-ce que cette église primitive ou les églises qui sont émanées du travail du ministère des disciples, est-ce qu'ils n'ont fait que ce que les disciples ont fait? Il n'y avait pas de rencontre avec le Seigneur. Alors toi, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Est-ce que tu as déjà eu une rencontre vivante avec lui? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Jeune Jean, est-ce que cela, tu connais ce que cela veut dire de prier ainsi? Ou tu peux t'agenouiller et dire, Seigneur, fais quelque chose de nouveau en moi, fais-le à nouveau. Oh, peut-être y a-t-il encore un petit feu, quelques braises encore au fond de ton cœur. Alors crie à Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Mais quand tu résistes à l'œuvre de Dieu, quand tu t'opposes à l'œuvre de Dieu, est-ce que tu crois que tu vas arriver à quelque chose? Alors laisse-moi te dire, tu n'arriveras à rien dans ta vie en t'opposant à l'œuvre de Dieu. Une fois, il y avait l'histoire d'un mari et une femme. Ils se sont installés dans un nouveau quartier. Et alors qu'ils étaient dans cette maison, de la cuisine, ils pouvaient voir l'étendage dehors du linge. Et souvent, la femme faisait ses commentaires. Alors elle commençait à dire, mais comment est-ce que c'est possible que la voisine étende un linge sale? Mais c'est pas possible, ses draps sont encore tout sales, comment elle peut se permettre d'étendre son linge? Et alors elle faisait toutes sortes de commentaires, je ne comprends pas, mais comment est-ce que c'est possible qu'elle puisse vivre comme cela, qu'elle puisse se permettre d'étendre son linge? C'est souvent, les femmes ont ce don de remarquer des choses, de discerner des choses. Je ne sais pas, est-ce que notre docteur peut nous le confirmer, mais combien de côtes nous avons? Bon, alors il n'a pas su me répondre, mais nous avons. Il n'a pas su sur le coup, mais il m'a dit 20. Donc Dieu a pris une côte. Il a pris une côte sur 20. Je me suis dit, tiens, je me suis posé la question. Je ne sais pas. Je me suis dit, je ne sais pas, si Dieu avait utilisé une autre partie de l'homme, s'il avait pris une partie du cerveau ou une partie d'autre chose, qu'est-ce que cela aurait été? Peut-être que cela aurait été le chaos. Mais Dieu, dans sa toute puissante sagesse, savait ce qu'il faisait. Donc, cette femme, chaque jour, faisait ses commentaires, avait toujours quelque chose à dire sur les draps et le linge de la voisine. Et un jour, comme d'habitude, elle s'est présentée au petit déjeuner. Elle est venue dans la cuisine et son mari était assis à table. Et comme de son habitude, elle a regardé la fenêtre et elle a dit « Oh, regarde-moi ça, comme son linge est propre maintenant. » C'est la première fois que je vois un linge si propre. Peut-être elle a entendu mes commentaires. Mais je vois que les choses ont changé. C'est merveilleux de voir comment les draps de notre voisine sont si propres maintenant. Et le mari, qui était assis à table, s'est tourné vers elle comme un vieux sage. Il a dit, mon épouse, j'ai décidé de laver les carreaux. Je me suis dit que ce serait une bonne chose de laver ces carreaux de la cuisine. Alors, est-ce que vous comprenez? Elle regardait à travers un carreau sale. Et en regardant à travers ce carreau sale, elle avait l'impression que tout le linge de sa voisine était sale. Mais en fait, c'était le problème chez elle. Et voilà ce que provoque le cœur de quelqu'un qui a perdu le premier amour. Quelqu'un qui a le premier amour commence d'abord par regarder sa propre vie. Et quelqu'un qui a le premier amour, c'est celui qui va laver ce carreau avant de se préoccuper des voisins. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur est à l'œuvre, et même en Europe. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur se révèle et œuvre dans la vie de gens qui ont peut-être été méprisés, mis de côté dans le passé. Ces derniers jours, quelqu'un m'a appelé. Alors ne commencez pas à faire des conclusions. Alors j'ai devancé vos pensées, parce que j'ai appelé cette personne en disant, mon ami, est-ce que tu me permets de mentionner cela? Il m'a dit oui. Cette personne m'a dit, dans ma vie chrétienne, dans ma vie, cela m'arrivait régulièrement de regarder une femme. Alors un premier regard, et puis c'est parti. Et il m'a dit, ces derniers jours, alors que je dormais, j'ai eu un rêve. J'étais dans ce rêve, dans une grande pièce, on pourrait dire une chambre. Et une après l'autre, différentes femmes se sont présentées dans ma chambre. Et alors, dans mon rêve, j'ai réalisé que c'était toutes les femmes que j'avais regardées. Alors, écoute. Et Dieu a alors convaincu cet homme en lui disant, voilà toutes tes femmes. Et alors cet homme m'a appelé en disant, prie avec moi, je ne pensais pas que c'était possible. Et j'ai réalisé que par mon regard, je n'ai pas qu'une femme, mais j'en ai ainsi beaucoup à cause de mon regard. Mais peut-être, toi, femme, tu es comme cette femme samaritaine qui a eu plusieurs maris. Et peut-être, toi, jeune femme, tu aimes quand les hommes te regardent. Tu aimes. C'est pour ça que tu t'habilles de cette manière. Parce que tu aimes ce regard que portent ces hommes. Rappelle-toi ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il lui a dit, l'homme avec qui tu vis n'est pas le tien. Et quand ce frère a partagé, ce qu'il m'a partagé, cela m'a touché. Il m'a dit, j'avais perdu ce premier amour. Sur le chemin, j'ai perdu ce premier amour. Mais quel combat, quel labeur, quelle bataille pour retrouver ce premier amour. C'est une bataille, c'est un combat de retrouver ce premier amour. Et c'est pourquoi Seigneur écrit, rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Change, reviens à ta conduite première. Repens-toi d'une telle vie avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les choses ne soient trop faciles. Avant que le temps ne soit passé. Toi, tu sais d'où tu es tombé. Tu sais ce qu'était ta vie auparavant. Comment tu étais enflammé pour le Seigneur. Tu étais préoccupé par ce que le Seigneur faisait dans ta vie. Et peut-être tu étais un avec l'œuvre de Dieu, mais désormais, maintenant, tu as toutes sortes de questions. Et tu n'as plus ce feu. Alors certains m'écrivent et me disent, ah, tu es stupide et bête. Alors toi, tu es peut-être intelligent, tu as quitté le premier amour, mais où est ton intelligence? Considère où est-ce que ton intelligence et tes raisonnements t'ont amené aujourd'hui. Que dit le Seigneur? Il dit, repens-toi, change, et d'une certaine manière, divorce d'avec cette nouvelle manière d'être. Nous, les hommes, nous pouvons tellement parler, mais je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Mais prends ce que a été dit. Tu peux le manger comme la viande. Tu jettes les os, tu manges leur reste. Mais souviens-toi, ce qui t'a causé la perte de ce premier amour, ce qui a fait que tu es devenu tiède, toi, tu sais ce que c'est dans ta vie. Nous lisons dans le livre de Daniel. Certains sont sages, prudents, ceux qui ont perdu le premier amour perdront aussi le courage. Ceux qui étaient n'étaient pas sincères dans leur cœur, ceux qui ont perdu le premier amour. Alors laissez-moi rajouter une histoire. Je pense que certains connaissent cette histoire, mais c'est quelque chose qui m'a touché. C'est l'histoire d'un PDG, d'un grand patron. Et alors, il est arrivé à la fin de sa carrière, il s'est dit, il faut que je trouve un successeur, mais je ne veux pas un de mes enfants. Je ne suis pas intéressé qu'un de mes enfants prenne la suite. Il s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un dans l'entreprise qui pourra prendre la suite. Et donc, il a fait appeler les différents dirigeants. Il leur a dit, voilà, j'arrive à la fin de ma carrière et je veux qu'un d'entre vous prenne la suite. Mais je veux choisir la bonne personne parmi vous. Je veux quelqu'un qui soit sincère, droit, qui fera le meilleur, qui donnera le meilleur dans sa nouvelle fonction. Alors il leur a dit, voilà tes semences. Et alors, il leur a dit, voilà, je vous donne à chacun des graines et vous allez les planter. Et dans un an, un jour, nous reviendrons ensemble, nous nous réunirons. Vous allez planter les graines. Et là, il a dit, dans un an, je choisirai celui qui a les plus belles plantes. Bon, pour raccourcir l'histoire à cause du temps, un des jeunes hommes dirigeants a planté ses graines et rien n'a poussé. Et il a tout essayé, mais aucune des graines n'a germé. Et en même temps, au même moment, il a entendu d'autres dirigeants dire comment eux, leurs plantes étaient belles et comment leurs plantes grandissaient, etc. Mais lui, ce jeune homme, n'arrivait à rien. Il n'arrivait pas à faire grandir quoi que ce soit. Et un an après, donc, quand ils ont dû présenter les plantes, les plans, dans une réunion. Ce jeune homme était désespéré. Il était abattu. Il a dit même le matin à son épouse, je vais même pas aller, j'ai même pas envie d'aller dans cette réunion. Mais comme une bonne épouse, elle lui a dit, prends, tu n'as rien à perdre, prends ce que tu as planté et amène-le et on verra bien. Et donc tous les dirigeants se sont présentés face au patron. Et chacun est venu présenter comment sa plante était plus belle que l'autre. Alors vous pouvez imaginer ce jeune homme, comment il a dû se sentir. Il a présenté lui son pot et il n'y avait rien. Rien n'avait poussé. Alors ils étaient là, réunis dans la salle de réunion. Et ce jeune homme a mis son pot sur la table et il n'osait même pas lever les yeux. Il était tellement honteux et abattu. Et les autres étaient fiers de montrer ce qu'ils avaient fait pousser les uns aux autres. Et alors le vieux patron s'est levé et a dit, « Mes amis, merci pour tout ce que vous avez amené. » Mais j'aimerais vous présenter le nouveau patron. Et il a dit, ce sera Bill. Bill, c'était justement le jeune homme qui n'avait rien, qui se paraissait inutile et qui semblait incompétent. Et alors tous les autres ont tout de suite réagi, comment c'est possible ? Comment est-ce que tu peux choisir Bill? Il n'a rien, il a un pot, il n'y a rien qu'à pousser. Et alors le vieux patron a dit, taisez-vous, calmez-vous, laissez-moi vous expliquer. Vous savez, les graines que je vous ai données l'année dernière, je les avais bouillies pour m'assurer que aucune d'entre elles ne pousserait. Donc vous, qui avez amené ces plantes, vous avez cherché d'autres graines. Et Bill, lui, au contraire, il a été sincère, il a été droit dans sa conduite. C'est pour ça que je le choisis comme nouveau patron. Donc, rappelez-vous, la Bible nous dit, ceux qui ne sont pas sincères abandonneront ce premier amour et déserteront la foi. Ceux qui ne sont pas sincères, ceux qui ne sont pas droits, bien qu'on les a désignés comme étant intelligents, mais la Bible nous enseigne que c'est un test que le Seigneur utilise pour purifier ceux qui lui appartiennent, même dans les temps de la fin, jusqu'au temps que Dieu a désigné. Donc, mes amis, ce temps que nous expérimentons, c'est un temps que utilise pour purifier, raffiner l'or. Et je pense que beaucoup peuvent témoigner comment le Seigneur est à l'œuvre parmi nous. Je pense que beaucoup de familles peuvent aussi témoigner, dire comment le Seigneur travaille et comment le Seigneur purifie et affine, raffine l'or, et que ce temps serve à cela. Et le Seigneur dit à celui qui vaincra. Peut-être tu dis, ah, mais c'est trop difficile. Non, le Seigneur dit, nous avons lu, le vainqueur Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. Toi, pour qui l'amour de Dieu brûle dans ta vie, tu connais cette vie des victoires. Mais lorsque le péché prend le dessus, alors les choses changent. Et lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, alors, même si nous avons été chassés comme Adam et Ève, Dieu dit, promet à celui qui vaincra, il redonnera, il donnera de l'arbre de vie. Alors, examinons-nous. Est-ce que je connais la victoire? Est-ce que j'ai le dessus dans les choses auxquelles je fais face dans ma vie? Et cet amour du Seigneur te pousse. Cet amour pour le Seigneur prend le dessus sur le mal. Alors peut-être tu te poses la question. Oh, que cette petite braise, est-ce qu'elle brûle encore dans mon cœur? Peut-être cette cendre même peut retrouver la vie et le feu. Même Ézéchiel a posé la question. Est-ce que des eaux qui n'étaient même pas côte à côte peuvent revivre? Et la réponse est oui, par Jésus-Christ, que des cendres puissent redevenir des feux, que des eaux puissent être à nouveau vie, et que l'Église de Christ puisse grandir et vivre une vie de victoire comme Église, afin que beaucoup soient attirés vers le Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie pour racheter l'Église et pour la sauver. Merci. Je me permets de rajouter deux choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ce serait une bonne chose qu'après que le Seigneur t'ait parlé ou il t'a dit « J'ai cependant un reproche à te faire. J'ai quelque chose contre toi. » Alors, voilà ces deux choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ce serait une bonne chose qu'après que Dieu t'ait parlé, que Dieu t'ait révélé là où tu as perdu ce premier amour. Alors ce serait une bonne chose que, après que Dieu t'ait dit « Voilà ce que j'ai contre toi », quand notre frère Dietmar a dit que on dit de lui qu'il est stupide, qu'il n'est pas intelligent, je me suis dit dans mon son cœur, ce personne qui ait écrit un tel SMS, c'est cette personne, bien qu'anonyme, qui peut être qualifiée avec ces termes. Parce que cette personne qui parle ainsi, qui écrit un message de cette manière, démontre par là qu'il a perdu le premier amour. Sinon, il n'écrirait pas telle chose. S'il y a quelque chose contre ton frère ou ta sœur, la parole de Dieu nous dit, va voir ton frère et dis-lui, voilà ce que j'ai contre toi, voilà ça, ça, ça. Et il a... Cette personne qui a écrit que c'est Antophos, Lydia, qui susurre, qui murmure dans l'oreille de Dithmar. Mais j'aimerais témoigner que ce n'est pas le cas et que Dithmar, tu n'es pas fou, tu n'es pas stupide, parce que nous vivons avec toi. Et si je peux me permettre de dire, c'est ceux qui écrivent de telles choses qui se permettent d'envoyer de tels SMS. Alors, ils démontrent par là qu'ils ont perdu le premier amour. On ne peut pas, ce n'est pas possible de écrire de tels messages, de parler de cette manière en ayant le premier amour. Comment peut-être peux-tu parler ainsi de ces deux personnes, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau? Ils sont tes frères et tes sœurs. Alors si tu te permets de parler comme ça, ça démontre que tu as perdu le premier amour. Et toi aussi, peut-être dans le passé, tu lisais ta Bible, tu priais, tu passais du temps avec le Seigneur et tu as perdu ce premier amour. Ce n'est plus le cas. Le Seigneur ne te parle plus. Peut-être que tu lis la Bible, mais c'est mort. Alors si c'est mort, c'est que tu as perdu ce premier amour. Peut-être tu avais l'habitude de lire la Bible, de prier, et ce n'est plus le cas. Peut-être avais-tu l'habitude de réunir tes enfants, de lire la parole, de prier avec eux, mais tu ne le fais plus. Et en ce temps de Covid, de confinement, tu ne viens plus à l'église, certes, mais tu ne prends même pas le temps pour entendre la parole de Dieu. Peut-être tu te couches et tu n'écoutes même pas les réunions. Contrairement, ou avant peut-être, tu désirais, tu n'attendais que le dimanche pour aller au culte. Alors si c'est le cas, tu as perdu le premier amour. Peut-être même maintenant, tu as des mauvais rêves, tu as des esprits mauvais qui te tourmentent. Et tu n'as plus le courage ou tu ne veux plus aller t'ouvrir et confesser ton péché. Alors, est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui va et qui dénonce son propre oncle avec des accusations fausses, est-ce que c'est un homme de Dieu? Donc prie pour de telles personnes. Prions que le Seigneur restaure le premier amour. Parce qu'ils ont perdu le premier amour. Personne qui ne peut faire une telle chose si elle n'a pas perdu le premier amour. Pour quelle raison faire de telles choses? Est-ce par jalousie? Pour quelle raison? Quel est le motif? Qu'est-ce qui anime une telle personne? Alors, nous sommes vraiment déçus d'un tel comportement. Quel type de jalousie cela peut-il être qui peut animer le cœur d'une personne au point de s'opposer à quelqu'un de sa propre famille qui pourtant est tellement généreux et donne tant de choses autour de lui? Et alors c'est pour ça que tu es jaloux? Et beaucoup remercient le pasteur Stegen. Et souvent, ils nous disent, remerciez-le pour ce qu'il nous donne. Remerciez-le d'avoir fait Kwesi, d'avoir permis aussi que nous puissions appeler des lignes pour des conseillers. Alors, nous voulons prier pour conclure. Oh Seigneur, Dieu, ouvre les yeux afin que nous puissions voir ton amour, nous puissions discerner les mystères célestes. Le Fils prodigue est là où il était avec les cochons. À un moment donné, il est rentré en lui-même et il s'est dit, je vais me lever, je vais retourner au Père, près de mon Père, et je vais lui dire, j'ai péché contre toi et contre le Seigneur, contre le ciel. Et il s'est souvenu comment son Père l'avait élevé. Seigneur, de cette même manière, ceux qui ont grandi avec le pasteur Stegen, oh, qu'ils puissent se souvenir un tant soit peu, un tout petit peu, de ce qu'ils ont reçu de sa part. Il fait grâce, Seigneur, à nous tous, à chacun, et à ceux et celles qui ont perdu le premier amour, et qu'ils puissent, tu puisses leur montrer là où ils ont perdu ce premier amour, où, quand, comment. Seigneur, montre où est-ce que nous avons perdu ce premier amour, afin que nous puissions retourner à ces premières choses et retrouver ce premier amour. Que nous ne soyons pas comme un caméléon qui change sa couleur en fonction de l'environnement. Le Seigneur, révèle-toi. Montre-nous là où nous avons perdu le premier amour. Et celui, celle qui encore le premier amour, que cet amour, ce feu puisse brûler et qu'il puisse être accroché et ne pas se dessaisir de cet amour jusqu'à ce que la trompette sonne. Amen.